l'invité du jour.
Il est presque 7h45, merci d'être avec nous. En ce jeudi matin, on va parler de l'association L'école à l'hôpital en direct ce matin avec cette initiative dont on vous parlait dans les infos avec cette inauguration hier de tablettes numériques en service pédiatrie. Pour en parler avec nous ce matin, Martine Michou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association L'école à l'hôpital et puis celle qui était présidente avant vous, Anne-Marie Fournier, bonjour.
Bonjour.
Oui. Toujours impliquée au sein de l'association, ancienne présidente donc. Avant de parler de cette opération donc sur les tablettes numériques notamment que vous avez inaugurée hier, on peut rappeler un petit peu comment est née l'association L'école à l'hôpital et puis qu'est-ce que vous faites finalement tout au long de l'année?
Alors l'association est née il y a très longtemps, en 93. C'est Madame Brun, Madame Ginette Brun, qui a décidé de la créer pour prolonger l'école, pour que l'enfant hospitalisé puisse encore suivre l'école, histoire de ne pas le couper de la vie extérieure. Donc on continue l'œuvre de Madame Brun. Actuellement on est une vingtaine de bénévoles, composés d'enseignants et de non-enseignants. Les enseignants proposent aux enfants de travailler donc sur le plan scolaire. Les non-enseignants tiennent une petite bibliothèque qu'on a en pédiatrie et prêtent les livres aux enfants.
D'accord. Voilà. Parce que pour les enfants hospitalisés, il y a une rupture avec l'école. Le constat, c'était ça?
Oui, le constat, c'était ça. Et les pédiatres insistent sur le fait qu'il est très important que l'enfant comprenne que même s'il est à l'hôpital, la vie continue à l'extérieur. L'école continue, rien ne s'arrête.
D'accord, donc ce sont des cours qui sont dispensés au sein du service pédiatrie?
Oui, dans les chambres, tous les jours. Il y a une équipe de 4 ou 5 enseignants qui passe et qui propose à l'enfant de travailler dans... On essaie d'avoir toutes les matières.
Donc vous le disiez, parmi vos bénévoles, des anciens enseignants ou enseignants peut-être en poste encore?
Peu d'enseignants encore en poste, justement. On aimerait bien que beaucoup nous rejoignent. La plupart sont des gens en retraite. Oui.
D'accord.
C'est un peu difficile de mener de front les deux.
Bien sûr.
Oui. Tu l'as fait pendant un an, toi, mais...
Oui. Ouais, au niveau de l'emploi du temps, c'est compliqué de concilier tout ça. D'accord. Avec des cours, donc, tout simplement, c'est quoi? C'est une heure par-ci, par-là, ou c'est...
Ah non, ça peut pas être une heure. Alors déjà, les infirmières nous font une liste d'enfants susceptibles de travailler. Hein. Il faut quand même qu'ils aient été choisis.
Bien sûr.
Et non, une heure, ce serait trop. Là, ce sont des enfants qui sont fatigués, donc on les fait travailler et on voit à leur réaction, quand tu commences à être un peu fatigué, on arrête.
On s'adapte. Oui.
C'est une adaptation complète. Ce sont des jeunes de... À partir de quel âge, les enfants? De tout, vraiment?
Le docteur Renaud disait hier qu'en pédiatrie, on a les enfants de 8 jours, ou même moins 8 jours, à 20 ans. Il y a encore des adolescents qui viennent se faire soigner là.
D'accord.
En particulier les mucoviscidoses qui sont habitués aux pédiatres.
Et donc les adolescents y compris évidemment sont... Enfin voilà, vous leur dispensez des cours.
Ah oui. 8 jours c'est un peu tôt quand même, on commence pas.
C'est un peu compliqué.
Mais c'est pour donner une idée de l'éventail qu'il y a en pédiatrie.
Bien sûr. J'imagine que pour les familles ça doit être un super moment et également de voir que l'école peut aller jusqu'à l'hôpital.
Oui, là, c'est très variable. Bon, il faut se mettre aussi à la place des familles qui sont là, qui sont inquiètes. Et certaines, il suffit que l'enfant, en plus, soit un petit peu en échec à l'école. Pour certaines familles, on peut comprendre qu'il n'est vraiment pas envie d'entendre parler d'école dans ce lieu. Voilà, on l'admet.
Bon, vous le disiez, donc, il y a ça comme action. Il y a aussi cette bibliothèque que vous gérez. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche.
Voilà, donc une bibliothèque, on a à peu près 2000 livres.
Oui, qui a été créée en 2006.
Ouais. Oui, et on prête environ 200 livres par mois. Donc c'est une bibliothèque qui fonctionne vraiment très bien.
Et les livres, c'est des dons en fait? Vous recueillez ces livres-là ou c'est des achats que vous faites?
Alors là, on a eu, quand on a créé cette bibliothèque, on a eu un prêt du Centre National du Livre, qui a eu des exigences, c'est-à-dire qu'on achète des livres neufs dans un certain nombre de maisons d'édition, plutôt originales. Et en principe, ce sont des livres neufs, pour qu'ils soient en très bon état, et voilà. Et on est censé faire travailler les librairies de la ville.
Bien sûr.
Qui sont au nombre d'une ou deux maintenant, alors qu'il y en avait davantage au début.
Et les enfants peuvent librement donc emprunter ces livres, comment ça se passe?
Oui, alors on leur propose, quand on va dans les classes, dans les chambres, je veux dire, on leur propose la bibliothèque. Alors, soit ils peuvent se lever, ils viennent choisir eux-mêmes, soit ils demandent. Et nous avons des romans, des BD, des mangas et des albums sur des sujets variés, genre la technique, les sports, la musique, la peinture, etc.
Alors en 2015, vous aviez déjà, là j'ai repris le petit historique, initié un projet autour des tablettes. Expliquez-nous ce que c'était exactement.
Eh bien, c'était donc à partir du constat que cette bibliothèque fonctionnait très bien, on s'est dit que ce serait bien si on pouvait apporter des histoires au chevet de l'enfant ou des livres lus.
Mmh. Ouais.
D'où l'idée d'installer un système de bras articulés, terminé par des tablettes, qui contiendrait des livres lus.
Donc c'est le projet qui a été inauguré
hier. Voilà.
Alors,
c'est 2 ans que ça nous occupe.
Ouais, j'imagine recherche de fonds.
Recherche de fonds, recherche de matériel, surtout un matériel adéquat. Il existe dans certains services hospitaliers ce système de bras articulés, mais ils sont souvent terminés par des ordinateurs qui contiennent le dossier médical du patient. Donc c'est un système qui est vendu intégralement, et nous, c'est pas du tout ce qu'on cherchait. On ne cherchait pas un ordinateur, on cherchait juste une tablette qui contenait de la musique ou des livres. Donc on a eu un petit peu de mal à trouver, oui, le matériel.
Comment vous avez fait là, donc pour vrai, concrètement, les contacts pour justement aller chercher ce matériel?
Internet, hein.
Ouais.
C'est vraiment la source. Et de fil en aiguille, on voit une photo, on se dit tiens, ça peut être pas mal. On remonte sur le fabricant, après on le contacte, il nous donne des pistes, tel hôpital est équipé, etc. Mmh. On se déplace, on va voir, et après on commande.
Alors donc l'inauguration avait lieu hier, c'est une première me semble-t-il en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors ce qui est une première, c'est que on propose ces tablettes aux enfants en chambre. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est tout seul, il est autonome, il peut tout à fait se mettre une histoire, s'écouter de la musique. Ça c'est nouveau. Par contre, on en a aussi installé aux urgences et dans les salles de soins. Ça, c'est pas nouveau. Je pense que Clermont-Ferrand est équipé. Les salles d'urgence sont équipées de systèmes comme ça.
Donc, alors, en tout, c'est 6 tablettes avec les bras articulés.
Oui.
Donc, voilà, qui équipe.
Oui.
Comment ça se passe concrètement au quotidien? L'enfant, vous le disiez, est autonome. C'est lui-même qui va utiliser la tablette au moment où il en a besoin, ou est-ce que ce sont les personnels de santé?
Alors, je pense que ça peut être les deux, parce que j'ai vu le cas avant-hier d'une petite gamine qui n'osait pas utiliser le matériel. C'est un matériel blanc, l'écran de la tablette est noir, ça peut ressembler à un matériel médical. Mmh. Donc d'elle-même, elle n'osait pas l'utiliser. Donc on a peut-être un rôle, nous, il faut leur montrer comment ça fonctionne, mais on constate que les plus grands, ça ne les gêne pas du tout, les plus grands sont plus explorateurs. Ouais. Donc ils vont aller commencer à appuyer, et puis après ils s'en sortent très bien. Donc il y a un minimum d'icônes, c'est très simple d'utilisation.
Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que les professionnels de santé, évidemment, j'imagine, sont impliqués dans ce dispositif, et qu'ils l'ont, alors tout à l'heure j'ai employé le mot loué, en tout cas c'est quelque chose qu'ils apprécient. Pourquoi finalement c'est apprécié, et en quoi pour la prise en charge de l'enfant, ça apporte un plus?
Alors, en ce qui concerne les chambres, je pense que ça apporte un plus au niveau du confort de séjour. L'enfant qui entend une musique va peut-être s'endormir plus calmement. Hein. Bon, ça, on est en train d'essayer d'évaluer un petit peu l'apport que ça apporte. Au niveau des urgences et des salles de soins, une infirmière vous raconterait mieux que moi, mais d'après le retour qu'on a, il est très clair qu'un enfant, quand il a des dessins animés sous les yeux, l'esprit est attiré par autre chose. L'infirmière peut faire sa prise de sang. L'enfant, tout se passe très bien.
Mmh, ouais, parce qu'il y a les actes médicaux, évidemment, c'est pas facile. Ça, ouais, un esprit occupé est peut-être un petit peu plus.
Ça, c'est prouvé.
Ouais, c'est prouvé.
Hein, c'est prouvé. Mais alors, donc, dans les salles de soins et d'urgence, le contenu des tablettes n'est pas du tout le même. Là, c'est des dessins animés pour hypnotiser l'enfant. Mmh. Dans les chambres, il n'y a aucun film, aucune vidéo, aucun dessin animé. On ne veut surtout pas que l'enfant et pas d'internet. On ne veut surtout pas que l'enfant soit collé à un écran dans sa chambre de pédiatrie.
Bien sûr.
C'est pas notre rôle, nous, école à l'hôpital, de prendre cette décision. Donc, dans les chambres, c'est uniquement un rôle de diffusion de musique et d'histoire. En urgence, c'est tout l'inverse. Donc, dessin animé, là, vraiment pour capter l'attention.
Ok. C'est un beau projet donc, qui aboutit. 2 ans de travail, vous l'avez dit. Mm-hmm. J'imagine la satisfaction. Est-ce qu'il y a d'autres projets déjà que vous avez en tête? J'imagine beaucoup, mais...
Écoutez, on a recensé 16 lits, je crois.
Oui.
Donc 16 lits à équiper, ça fait encore pas mal de bras articulés. Oui, oui. Mais il faut qu'on prenne le temps d'avoir un petit peu de recul pour voir comment les enfants en chambre apprécient, se comportent. Est-ce qu'il faut modifier des petites choses? Il faut qu'on observe un peu maintenant.
Si on a des enseignants et on en connaît qui nous écoutent et qui veulent venir donner un coup de main, j'imagine qu'ils sont appréciés. Comment ça se passe?
Tout à fait.
Venez vite.
Surtout venez, n'hésitez pas.
Donc on a un site école-hôpital-montluçon.fr. Et donc là, ils trouveront toutes nos coordonnées sur le site. Sinon, on est basé au centre hospitalier. On est connu.
Et on partagera toutes ces coordonnées.
Oui.
Avec notamment le mail pédiatrie.école@gmail.com. Merci à toutes les deux, Anne-Marie Fournier, Martine Michoud, d'être passées à notre micro, nous présenter ce beau dispositif. Bravo à vous pour cette réalisation. 7h55. Et bien, on va continuer le Good Morning, mon Lieu. À tout de suite. Et merci à vous. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
L'invité du jour.